Nous sommes très heureux de recevoir ce midi la plus française des auteurs belges, une artiste iconoclaste et excentrique, mystique et mystérieuse, celle qui depuis L'hygiène de l'assassin publie un roman à chaque rentrée littéraire. Ce midi, je vous demande... Ce midi, je vous demande d'accueillir très chaleureusement mademoiselle Amélie Nothomb.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Anne Roumanoff.
Vous savez que vous m'impressionnez?
Mais vous aussi.
Ah bon? Pourquoi je vous impressionne?
Bah écoutez, vous m'avez fait rigoler tellement de fois, je ne sais pas, ces 20 dernières années, que rien que de vous voir, j'ai envie de rire. C'est formidable.
Amélie Nothomb, vous êtes belge, mais comme tous les Belges qui réussissent, Brel, Hallyday, Poulvord, Adamo, ici, on vous considère comme une Française?
Et pourtant, je rappelle à toute occasion que je suis belge, mais bon, c'est vrai que le rêve de tout auteur belge est d'être publié en France pour d'évidentes raisons, mais ça, je ne suis pas française pour autant et j'ai tous les jours l'occasion de me rendre compte que je ne suis pas française. Quand j'ai débarqué en France il y a 25 ans, j'ai fait toutes les erreurs que commet une Belge qui débarque en France. Je suis entrée dans une boulangerie pour demander un pain français, je me suis fait insulter avant de comprendre qu'on disait baguette dans ce pays. Je commence peu à peu à m'acclimater, mais pas plus tard qu'il y a 2 mois, je me suis encore fait engueuler dans un café à Bastille où j'étais entrée par un jour de grande chaleur demander un bête verre d'eau, et ce bête verre d'eau m'avait valu des engueulades de la part du cafetier qui me disait: mais qu'est-ce qu'il a mon verre d'eau, pourquoi il serait bête mon verre d'eau? et j'ai eu le plus grand mal à lui expliquer qu'en Belgique un bête verre d'eau c'est un verre d'eau tout simple.
Vous n'avez pas du tout l'accent belge par contre, Amélie Nothomb.
Si vous voulez je peux l'avoir.
Montrez-nous.
Alors, bon, je préférerais, si vous voulez bien, avoir l'accent belge de ma région. Donc, moi, je viens de la région d'Arlon. C'est normal si vous ne connaissez pas.
Si, je connais.
Personne ne connaît. Et là, quand j'arrive à la boulangerie d'Arlon pour chercher le pain, je ne me fais pas engueuler, mais on dit « Oh, Amélie !»
D'accord. C'est comme ça.
« Amélie !»
Voilà. Mais du coup, tout Arlon me connaît par mon nom.
Ça, c'est agréable.
C'est assez agréable.
Bah, ils sont 12 aussi, donc...
à peu près.
Alors, vous avez une adolescence très difficile, hein, anorexie, boulimie, alcooliste. Normalement, vous auriez dû devenir médecin ou fan de Benjamin Biolay.
Par ailleurs, j'aime beaucoup Benjamin Biolay, mais ça...
C'est l'écriture qui vous a sauvé la vie, Amélie Nothomb ?
C'est absolument certain. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je vais très bien, mais je me suis accommodée de tout ce qui n'allait pas. Il est certain que écrire, ça a changé la boussole, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me suis dit, mais peu importe que je me nourrisse extrêmement bizarrement, du moment que je suis capable d'écrire. Et il se trouve que
vous écrivez tous les jours, de 4h à 8h du matin.
Sans aucune exception.
Et le reste de la journée, c'est un RTT, réécrivons tout tranquillement.
Non, le reste de la journée, je réponds à mon courrier qui est combien abondant.
Parce que vous n'avez ni mail, ni téléphone portable.
Ah, je suis alors là 100% vieux jeu, puisque je ne possède pas de téléphone portable, je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment allumer un ordinateur. Je ne possède par ailleurs pas de permis de conduire, pas de voiture, pas de chauffeur, pas de télévision.
Quand un homme veut vous joindre, il fait comment ?
Eh bien, il me court derrière.
Ah. Vous ne recevez pas texto alors du coup ?
Je ne reçois pas de texto et je vous jure que ça ne me manque absolument pas.
Pour vous trouver, il faut vous écrire par la poste ?
De bonnes vieilles lettres avec un papier et un stylo dans des enveloppes avec un timbre. Et je prétends que c'est la meilleure forme de communication qui existe.
Et vous répondez, il paraît, à tous vos fans ?
Je réponds à tous qui en vaut la peine, c'est-à-dire à 9 lettres sur 10.
Et c'est quoi la 1 sur 10 ?
Alors, je ne réponds pas à ce qui est grossier. Je ne réponds pas à celui qui, sans vous connaître le moins du monde, vous demande en mariage tout de suite.
C'est arrivé ?
Oh, c'est arrivé plus d'une fois.
Mais pourquoi ça m'arrive jamais, ça, moi ?
C'est une bonne question.
C'est bizarre.
Et par ailleurs, avec le temps, j'ai cessé de répondre à ce que je trouvais exagérément stupide. Par exemple, la personne qui dit « j'écris pour vérifier que vous répondez », ça, je commence à trouver ça un petit peu
Parce qu'il paraît que pendant très longtemps, aux signatures, vous donniez carrément votre téléphone au... Vous avez arrêté ça.
Lors de mes années belges, c'est-à-dire avant 1997, quand j'étais encore à plein temps en Belgique, je donnais mon téléphone fixe, bruxellois, aux gens, et il m'arrivait des trucs pas croyables. J'avais un bon vieux répondeur, vous savez comme ça existait à cette époque, et je tombais sur des déclarations interminables ou sur des sonates au violon jouées à 2h du matin. Et je donnais aussi mon adresse privée à tout le monde, donc il m'est arrivé de retrouver un homme nu sur mon paillasson. Enfin,
oh oui,
ça t'est jamais arrivé non plus,
non
ça
plus, mais...
Sympa, non?
Non, je crois... Comment ça se fait? Vous êtes un sexe symbole, alors?
Mais vous avez vu, franchement, il n'y a pas de quoi faire un sexe symbole, mais je crois simplement que les gens étaient intrigués. Il y a... il y a...
Moi aussi, quand je suis intrigué, je me fous à poil.
Ah oui, ah bah dis donc, ça.
Elle va
des idées.
Donnez votre adresse en mais direct, non, mais... on verra bien. Vous me direz demain matin si ça a marché.
Non, mais c'est pas que je cherche ça, mais je oui. sais, ça
mais
quand
s'il
même.
Est nu, maintenant qu'il est là, entrez, monsieur.
Vous allez attraper froid, enfin.
Pas là. Mais c'était... J'ai un plaid, j'ai du thé. Venez.
C'était très gênant par rapport à ma gardienne, parce que
oui,
c'est ma gardienne
ça
qui m'a demandé des comptes après.
Peau,
elle me disait, mais écoutez, arrangez-vous à ne plus avoir un homme nu devant moi.
Hein. Amélie, notons, alors votre vie entière est consacrée à l'écriture, c'est un sacerdoce, vous êtes rentrée dans les ordres littéraires, sauf que vous avez remplacé le vin de messe par le champagne, c'est
absolument.
Très important pour vous le champagne.
Ah oui, ma conception du bonheur, c'est tout simple, il suffit de boire du très 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 bon champagne.
Par contre, il faut trouver quelqu'un avec qui boire.
C'est ça le problème, ou plutôt la vertu du champagne, c'est qu'en aucun cas il ne faut le boire seul. Un grand champagne, ça se partage. Donc le sens de la vie consiste bien évidemment à trouver une ou plusieurs personnes avec qui on puisse partager le champagne.
Comment, alors, on est là.
Vous mettez,
on peut se dire 19h, 19h30.
Donc vous mettez du puff daddy à fond et vous voulez éclater comme ça.
Quelle horreur.
Au fil du temps, Amélie Nothomb, vous avez imposé votre personnage intrigant, mystérieux, loufoque, décalé. Vous jouez beaucoup avec les médias. C'est une façon de vous protéger, car en fait, on ne connaît pas vraiment Amélie Nothomb.
Mais croyez-moi, je ne joue pas. Je réponds toujours aux questions de la seule manière dont je puisse répondre. Alors, il se trouve que les trois quarts du temps, quand je réponds quelque chose, je lis la perplexité dans le regard d'autrui, mais c'est ça, c'est l'unique réponse dont je suis capable.
Vous êtes atypique, Amélie Nothomb.
Et je suis la seule chose que je peux être.
Il paraît que vous avez une mémoire incroyable, que vous êtes très physionomiste.
Plus exactement, j'ai une mémoire absolue des émotions. Quand quelqu'un me touche, je peux être sûre que je m'en souviendrai toute ma vie. Par ailleurs, si quelqu'un ne me touche pas, il peut venir même 50 fois à mes dédicaces, je ne me souviendrai jamais de lui.
Jean-Philippe, vous ne vous rappelez pas?
C'est qui ce monsieur?
Quelqu'un qui a voulu vous toucher.
À la soirée champagne, vous avez pas mal touché là.
Vous dites que vous avez beaucoup de romans dans vos tiroirs que vous ne publiez pas. Comment s'effectue le choix? C'est votre éditeur ou c'est vous qui vous dites non, ce livre n'est pas digne d'être publié?
C'est moi et moi seule. J'écris infiniment plus que ce que je publie puisque je suis en train d'écrire mon 94e manuscrit alors que somme toute je n'en ai publié que 27. Donc vous voyez, je publie à peine le quart de ce que j'écris. C'est donc la démarche est la suivante. J'écris entre 3 et 4 manuscrits par an. Et à la fin de l'hiver, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année, là encore 3 ou 4 manuscrits, et c'est toute seule que je fais, de façon très instinctive, le choix de celui de mes manuscrits de l'année que je publierai. Je préfère toujours que ce soit un manuscrit de l'année, non qu'il me soit le moins du monde interdit de plonger dans ce que j'appelle mes archives, mais je préfère, en tant que maman de famille nombreuse, je préfère montrer les bébés récents plutôt que les bébés anciens.
Ouais. Il y a tellement de gens qui sont en panne d'inspiration, c'est quand même incroyable ça.
Alors je vais vous confier, Anne Roumanoff, j'ai trouvé le grand secret de l'inspiration. Le secret de l'inspiration est très simple. Il suffit de ne jamais s'arrêter. Je pense que ça, c'est une des différences qu'il y a entre les autres auteurs et moi. Les autres auteurs font toujours une pause entre leur manuscrit, que ce soit une pause d'un jour, ou d'un mois, ou d'un an. Moi, je ne fais même pas une pause d'une seconde, c'est-à-dire qu'au moment où j'écris fin au bas d'un manuscrit, la seconde d'après, je prends le nouveau cahier et je commence tout de suite le suivant. Je compare l'inspiration à une espèce de formidable muscle qui, une fois qu'il est échauffé, ne se calme absolument jamais. Alors, je ne suis pas en train de vous prétendre que toutes les idées qui me viennent sont formidables, mais ce que je constate, c'est que le fait de maintenir cette inspiration tout le temps en éveil fait qu'elle sécrète toujours quelque chose.
Et vous avez écrit combien de livres depuis le début de cette émission?
Alors votre nouveau livre, Amélie Nothomb, s'intitule Les prénoms épicènes. Alors je précise tout de suite qu'un prénom épicène, c'est un prénom qui va aussi bien à un homme qu'à une femme, comme Camille, Michel ou René. Et dans ce roman, on suit les déboires d'une petite fille qui s'appelle Épicène, dont les parents se prénomment Claude et Dominique. Et la petite Épicène tire son nom du titre d'une pièce de Ben Jonson, un contemporain de Shakespeare, Epicène of a Silent Woman.
Oh, ouais.
Epicène ou la femme silencieuse. Et cette petite Epicène, elle aussi est murée dans le silence, son père Claude ne lui portant très peu d'intérêt pour une raison qu'on découvrira à la fin de l'ouvrage. Cette petite Epicène, elle ressemble beaucoup à la petite Amélie que vous étiez, solitaire, rêveuse, renfermée.
Oui, à cette différence près que, Dieu merci, j'ai eu de très bons parents, donc je n'ai pas eu vécu une situation telle que la sienne. C'est un livre sur la vengeance. J'avais encore jamais traité le thème de la vengeance. Jusqu'ici, c'est un thème très jouissif, hein, parce que, vous le savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, dans la vraie vie, je ne me venge jamais. Non que je n'ai pas des motifs de rancune à l'égard de certaines personnes, mais parce que ça me paraît trop fatigant de se venger, et puis j'ai toujours l'impression que ça ne marche pas. Donc ici, dans ce
vous
livre...
Vous aimez bien, dans le livre, pouvoir tuer les gens, vous dites, parce
voilà.
Que...
Dans la vraie vie, on peut pas. Il y a des lois un petit peu qui nous en empêchent. Mais dans les livres, on a le droit de tuer les gens et même on vous félicite pour l'avoir fait. Donc c'est formidable quand même.
Je vais changer de place moi parce que, parce que je peux me mettre en face.
Ben H a fait votre portrait, Amélie Nothomb.
Oh, oui, je suis là, chère Amélie Nothomb. Lorsque vous préparez un livre, vous parlez de grossesse.
Oui.
Et lorsque le livre existe, il devient votre enfant.
Oui.
Eh bien, sachez, selon la même analogie, que faire votre portrait fut un accouchement difficile et sans péridurale.
Ciel.
Pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes une femme intelligente, mystérieuse, subtile, raffinée. Soit typiquement le genre de femme qui ne me regarde jamais. Le genre de
c'est
femme
sympa pour
qui
les autres.
M'effraie. Elles se reconnaîtront. Le genre de femme qui m'effraie, le genre de femme qui me fascine. Vous me fascinez, oui, Amélie Nothomb, depuis votre œuvre jusqu'à vos chapeaux, en passant par la mélodie de votre phrasé, votre façon de vêtir avec des mots haute couture, une phrase qui se voulait sobrement prête à parler. Oui, Amélie, pardon, quand je suis face à une écrivaine, ma plume s'emballe. J'ai plus rien face à une chanteuse, c'est ma voix qui s'emballe. Hâte de recevoir Clara Morgan. Oui, vous me fascinez, mais non, Amélie Nothomb, vous ne me regarderez jamais. Vous ne me regarderez jamais parce que, a priori, tout nous oppose. Vous étiez une enfant précoce, intelligente et curieuse. Moi, j'ai mangé des Legos jusqu'à l'âge de mes 11 ans. C'est vous dire. Vous êtes très proche de la culture japonaise, alors que moi, ma culture nippone se résume grosso modo au menu B4 et à Pikachu. Ouais. Vous conservez tous vos textes non publiés, vous le disiez, car vous serez incapable de les brûler, dites-vous. Cela reviendrait à brûler vos enfants. Hein, moi aussi, mes chroniques, c'est comme mes gosses, hein, mais je ne conserve jamais celles qui ne sont pas publiées, hein, parce que c'est Anne Roumanoff qui les brûle directement. Et puis, au gré de mes recherches, au fil de votre biographie et entre les lignes de vos ouvrages, j'ai cru découvrir la femme derrière l'icône, la petite fille qui se cache derrière la geisha baroque envoûtante, la fragilité du corps sous le costume et les névroses écorchées vives d'une plume qui vient combler une enfance faite de journées de solitude et de nuits de cauchemar. Pardon. Voilà que je m'emballe de nouveau. Bref, tout ça pour vous dire, Amélie Nothomb, que même si vous ne me regarderez jamais, moi je continuerai d'être fasciné. Et je ne suis pas le seul. Les gens vous trouvent tellement génial qu'ils pensent, comme Anne le disait, que vous êtes française. On fait toujours ça en France. C'est une marque d'affection réservée seulement aux francophones qui ont du talent. Garou, par exemple, est resté québécois. Lui. Aujourd'hui, vous êtes même la star de la rentrée littéraire que vous faites chaque année sans discontinuer depuis 27 ans. Et c'est rare, hein. C'est unique même, hein, de faire 27 fois la même rentrée sans être considéré en échec scolaire. Chapeau. Et vous l'aurez compris, comme plein d'autres personnes à travers le monde, j'attends déjà le 28e bébé. Et d'ici là, bonne grossesse, mademoiselle.
Merci,
Nothomb.
Bravo.
Qui vous a séduit, Amélie Nothomb? Vous êtes séduit par Ben H?
Mais à fond. Ah, wow. Quel esprit.
Ah oui.
Et l'esprit surtout, hein, le physique, on verra plus tard.
Et son physique alors?
Ah ben c'est la radio. Hein.
Écoutez, je vais le regarder plus attentivement.
Voilà, ça, c'est pas mon signe, bizarrement.
Christine Leroux a des questions à vous poser, Amélie Nothomb.
Oui, tout à fait. Parce que comme tous les écrivains, vous êtes également une lectrice. Aussi, pour en savoir un peu plus sur vos goûts littéraires, je vous propose une interview, attention, bibliothèque. Alors, quel livre auriez-vous aimé écrire ? Les Fleurs du Mal, même si vous n'avez pas la main verte. Le Rouge et le Noir, parce que c'est votre code couleur quand vous vous maquillez. Le Blé en Herbe, car comme tous les artistes, vous aimez l'herbe, mais surtout le blé. Stupeur et Tremblement, même s'il se trouve que c'est déjà écrit par vous.
Écoutez, à part Stupeur et Tremblement, vous n'avez mentionné que des chefs-d'œuvre qui ont tous énormément compté pour moi et j'aurais été totalement incapable de les écrire. De toute façon, c'est pas grave, ils sont déjà écrits, donc il ne faut pas souffrir de ne pas avoir ce talent-là à d'autres longs à ma place.
Alors, quel livre pensez-vous que tout le monde devrait lire ? Le Petit Prince, pour se rappeler que du temps de Saint-Exupéry, la royauté, c'était quand même autre chose que Meghan et Harry. Les Raisins de la Colère, James et la Grosse Pêche et Poils de Carotte, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, donc là, c'est incroyable, je crois. Le Deuxième Sexe, parce que sa récente adaptation, mieux connue sous le titre de Hashtag Balance ton porc, est une œuvre assez inégale. À la recherche du temps perdu pour que les Français cherchent enfin autre chose que du travail.
Eh bien, à la recherche du temps perdu parce que j'en ai assez d'entendre les gens dire que c'est un livre embêtant. C'est un livre pas embêtant du tout. Je l'ai lu deux fois en entier et je vous assure, c'est passionnant. Donc, il faut qu'on cesse de dire que Proust est embêtant, c'est tout sauf embêtant.
C'est vrai, je suis très émue par cette réponse. Alors, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Alors, quel héros ou héroïne de livre auriez-vous aimé être ? Martine, parce qu'entre la plage, la campagne, le zoo et la ferme, elle a quand même une vie très sympa. Frankenstein, parce que de toute façon, maintenant, avec les filtres Instagram, on masque très bien les petits défauts du visage. Don Quichotte, car vous savez ce que c'est de vous battre contre des moulins, vous rencontrez beaucoup de critiques littéraires.
Alors, physiquement, Frankenstein, c'est certainement ce qui me va le mieux, mais je ne
peux pas vous laisser dire ça.
J'ai une très grande tendresse pour Don Quichotte, donc je vais choisir Don Quichotte, c'est mon livre préféré. Donc, il se défend pour l'honneur, il est convaincu de ce qu'il fait. Ce qu'il fait peut-être inutile, mais il le fait avec le dernier acharnement. Je trouve magnifique de vouer toute sa vie à se défendre pour l'honneur.
Un peu comme les Balkany. Bien. Et enfin, si vous deviez qualifier les chroniqueurs de cette émission en un titre de livre, vous diriez que nous sommes les Trois Mousquetaires, les Misérables, les Petites Filles Modèles ou l'Assommoir.
Ça vous va tellement bien d'être les Trois Mousquetaires.
Ah, merci beaucoup, Amélie Nothomb.
Invité qui est auteur, compositeur, interprète après un premier album certifié disque de platine. Il a sorti son deuxième album dont le single sur le thème de la désertification Les Oubliés a été vu plus de 1,5 million de fois sur YouTube. Il vient de faire une mini tournée acoustique des villes oubliées de France et va bientôt attaquer une maxi tournée. Lui, on n'est pas prêt de l'oublier. Applaudissements pour Gauvin Cerce. Ouais, alors Gauvin Cerce, vous avez 29 ans, vous avez grandi dans la Creuse, vous êtes né à Limoges.
Ouais.
Et là, vous avez un succès incroyable avec finalement un album très atypique dans le paysage actuel de la chanson française.
Ouais, c'est vrai que ce genre de chanson-là, on va dire de la chanson française assez classique finalement dans la forme, est pas très en vogue, on va dire, dans les médias, dans les radios. Mais justement, moi j'avais à cœur de continuer dans cette lignée-là qui m'a donné envie d'écrire des chansons. C'est Brassens, c'est Jean Ferrat, c'est Barbara, c'est Souchon, Renaud aujourd'hui. Et voilà, c'est un genre de chanson, je crois, qui fait partie de notre culture et j'avais à cœur de raconter moi mes histoires de mon époque sur une musique assez atemporelle finalement qui existe depuis très longtemps.
Alors il y a une histoire assez incroyable avec Renaud, c'est que un de ses collaborateurs écoute votre album sur internet, lui il est à côté.
Ouais.
Et il dit c'est quoi, c'est bien, ça me plaît. Ouais. Et il vous appelle, il vous demande de faire sa première partie et vous croyez que c'est une blague.
Ouais, en fait l'album n'était pas sorti, hein. C'était juste une chanson qu'on avait enregistrée vraiment en session acoustique dans un studio. On avait sorti un titre
sur internet.
Ouais. Et en gros, ouais, un de ses assistants écoute cette chanson avec lui à côté et il a tendu l'oreille. Il a beaucoup aimé la chanson. Il a voulu en écouter une deuxième. Une demi-heure après, il avait trouvé mon numéro. Il m'appelait et c'était trois jours avant son premier Zénith, son grand retour après 10 ans d'absence. Et voilà, il m'appelle, il me dit « Salut, c'est Renaud au téléphone ». Donc là, évidemment, j'ai cru une blague au début. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était…
T'as dit à ton copain « Arrête tes conneries
voilà. ». Non, j'ai rien dit. j'ai pas pris de risque. Mais non, après, j'ai évidemment reconnu… parce qu'il est quand même très difficile à imiter vraiment très bien. Et voilà, il a parlé de mes chansons avec des mots hyper touchants. Ça a duré très longtemps. Et c'est à la toute fin de la conversation qu'il m'a proposé les premières parties. Et là, il y a eu un gros blanc. Voilà.
Vous avez raccroché, vous avez pleuré, comment ça s'est passé?
Non, j'ai hurlé dans la rue parce que j'étais dans un resto, donc je suis sorti du resto pour prendre le coup de fil et là c'est vrai que j'ai hurlé dans la rue, j'ai pas pu, je devais rentrer chez moi du coup et j'ai même pas pris le métro parce que j'avais trop peur de croiser des gens tellement j'étais excité, je voulais pas être enfermé, donc je suis rentré chez moi à pied, j'ai mis 45
minutes.
C'était
quoi comme restaurant alors? Ça vous apportait bonheur?
Ouais, et j'y retourne du coup super souvent par superstition. C'était un restaurant chinois de nouilles chinoises.
D'accord.
Ça s'appelle Happy Nouilles.
Le suite, ça fait moins chanson française.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et donc, vous avez commencé par la première partie au Zénith? Non, quand même.
Non,
pas.
Non, non. Après, c'est vrai que les gens croient que j'ai commencé ma carrière à ce moment-là, mais non, ça faisait 2 ans vraiment que je jouais dans des
petits.
Non, mais
vous avez joué au Zénith en vous prévenant 10 jours avant ou alors
3 jours avant, c'était.
Et,
oui,
jours
par
avant.
Contre, 3 jours après ce coup de fil-là, on était au Zénith.
Vous n'avez pas dormi, j'imagine.
Non, bah non, j'étais. Même quand je traversais les passages cloutés dans Paris, je regardais 15 fois pour au cas où il m'arrive quelque chose, parce que je voulais vivre le truc. C'était assez fou. Ouais. Et puis en fait, on devait jouer que les 10 dates au Zénith à Paris. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on a fait toute la tournée avec lui.
Donc 75
on a fait,
dates avec lui.
Ouais, même quasiment 100 en fait.
Et c'était très cohérent. Enfin, j'étais au Zénith de Paris
ouais.
Et c'est très rare que les premières parties soient écoutées par le public. Généralement,
ouais,
les
vrai.
Gens se placent, ils s'achètent à manger. Et vous, on vous écoute, quoi. Il y avait ouais, vraiment un côté que c'est qui, ce mec-là?
C'est comme si vous avez parrainé, en quelque sorte.
Ouais, ouais, je l'appelle comme ça maintenant, aujourd'hui. Et c'est,
vous l'appelez quoi, parrain?
Mon parrain, ouais.
Et alors, vous lui avez fait écouter votre deuxième album avant qu'il sorte ?
Ouais, bien sûr. C'est le premier à qui je l'ai envoyé. Et voilà, il m'a laissé un message vocal. Bon, je peux pas dire ce qu'il m'a dit, mais ça m'a pour le coup vraiment bouleversé parce que c'est forcément son avis compte beaucoup pour moi et avec tout ce qu'il a fait. Et puis, voilà, c'est un spécialiste en matière de chansons. Je crois qu'il a plus rien à prouver. Et voilà, ça m'a fait hyper plaisir, très chaud au cœur qu'il écoute cet album-là. Et voilà, c'était important, très important pour
moi. Et vous, ça vous a donné envie de reprendre ou de chanter en duo avec lui ou de reprendre une de ses chansons de Renaud ?
Bah, reprendre, j'en ai déjà pris par-ci, par-là, dans des concerts ou à certaines occasions. Après, faire un duo, ouais, pourquoi pas ? Ça serait une manière de boucler la boucle. Après, je sais qu'il n'est pas très friand de duo de manière générale. Et ça serait peut-être un peu trop évident aussi, alors je sais pas, on n'en a pas du tout parlé et pour l'instant j'essaye de tracer mon chemin sans
trop. Alors il y a une énorme tournée qui arrive dans plein de villes, 22 novembre Argentan, 23 novembre Crépy-en-Valois, Caluire-et-Clure, Istres, Lille, Ludre, Luxembourg, Forges-les-Eaux, Bruxelles le 15 février, 21 février Saint-Claude, 6 mars Nogent-le-Rotrou et le 24 avril au Zénith de Limoges et le 25 avril au Zénith de Paris. Là, c'est vous, Gauvin Serres, qui allez être au Zénith comme un grand tout seul.
Ouais, avec Renaud en première partie. Ça va être sympa. Ouais.
Vous allez prendre qui en première partie du coup ?
Du coup, j'aime bien rendre un peu la monnaie de la pièce et mettre des gens en qui je crois vraiment beaucoup en première partie. Donc, il y a eu plusieurs artistes sur la précédente tournée. Il y a eu Gauvrash, quelqu'un qui fait du slam.
Déjà, il a copié votre nom, Gauvrash.
Il a un talent dingue. Il y a aussi Frédéric Bobin, Clio aussi, avec qui j'avais fait un duo sur le premier album. Donc voilà, que des amis artistes. Ouais,
et le serveur de Happy Nouille.
Là, on ne va pas parler d'Happy Nouille, Gauvin Serres. On va écouter cette chanson magnifique, Les Oubliés.
Avec plaisir.
Avec votre guitariste qui s'appelle comment ?
Martial Bor.
Martial Bor.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qui les trisse le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qui les trisse le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des soufis. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Alors c'est vrai que cette chanson a marqué les esprits et c'est une belle histoire. Vous êtes vous-même fils d'instituteur, vous avez grandi à la campagne et un jour, un instituteur dont l'école est en train de fermer vous écrit.
Exactement, il m'envoie un mail, une espèce de dernière chance, une bouteille à la mer parce que voilà, il essayait de faire plein de choses pour essayer de sauver ses deux dernières classes dans son école. Et,
elle était où cette école ?
À Pontoile, dans la Picardie, dans la Somme. Et voilà, il me racontait son histoire avec énormément de passion aussi de son métier. Et voilà, j'ai tout de suite eu envie d'en écrire une chanson parce que je voulais aborder le thème de la désertification des campagnes au sens large depuis un petit moment. J'avais pas trouvé le moyen d'attaquer la chanson et c'est vrai que quand il m'a parlé de la fermeture de l'école, je me suis dit que c'était le symbole le plus fort parce que quand une école ferme, bah c'est la petite épicerie aussi qui va fermer, c'est la gare qui est moins desservie et puis c'est une perte des contacts humains, on va dire, au sens large. Et voilà, je trouvais que ça faisait un super sujet de chanson, un sujet d'actualité de notre époque, peut-être qui aurait pas pu être écrite il y a 20 ou 30 ans.
Et du coup, il est où cet instituteur maintenant alors ?
Bah, il est dans un village à 5 km, je crois, plus loin, mais voilà, dans une école très différente où il y a, je crois, 250 ou 300 élèves, où les gens sont 35 par classe et où il y a moins cette proximité. Et forcément, lui, il est très déçu.
Vous avez été faire un concert à Pontoile aussi ?
Ouais, on a fait deux concerts, même avec Martial, justement, en duo, en acoustique. On a monté un espèce de chapiteau dans la cour d'école. Et donc voilà, on a chanté Les Oubliés avec les enfants. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience de dingue. Et même si, évidemment,
du coup,
j'aurais préféré...
Ça va devenir être un hymne de toutes les écoles qui ferment, cette chanson.
Bah, en tout cas, ouais, elle est beaucoup reprise par des enfants qui essayent de sauver leurs écoles. Elle est reprise aussi par tous les services publics au sens large, des hôpitaux aussi.
À un moment, votre chanson, Gauvin Serre, ça a été un peu comme l'hymne des Gilets jaunes. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment
Bah, c'était très perturbant parce que c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était 6 mois avant le début de ce mouvement-là. Et c'est vrai que de voir que les gens revendiquaient un petit peu exactement, enfin en tout cas, une des premières revendications, c'était exactement cette chanson-là. Et à la fois, ça m'a fait plaisir parce que ça veut dire que j'avais tapé juste et que voilà, ce que j'avais entendu quand je rentrais justement chez moi dans la Creuse, dans les discussions, cette espèce de sentiment d'abandon que je ressentais, il a explosé un petit peu à la face de tout le monde. Et ça, je crois que c'était important. Après, il y a eu tellement de revendications dans ce mouvement que c'était compliqué de finalement d'être à la fois d'accord avec tout et à la fois en désaccord avec tout. Donc voilà, c'était difficile de se positionner, je trouve. Mais en
la
tout cas,
la prochaine fois que vous sortez un single, envoyez-le à Macron qu'il puisse anticiper un peu.
C'est un
si
peu
vous
ça,
avez 6 mois d'avance sur lui, comme ça au moins il peut prendre les mesures.
Vous pourriez d'ailleurs faire une chanson pour soutenir Macron maintenant, parce que vous aimez bien les gens qui ont des problèmes.
Ah bah là, dans quelques années, les oublier, ça va être lui. Ouais.
Ça va être beaucoup plus compliqué, je crois, de ce côté-là.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Gauvin Serre.
Ah, hey, merci de ne pas m'avoir oublié, Anne. Oui, parce que généralement, Anne oublie de me lancer. Je l'oubliais de l'émission. Alors, Gauvin Serre, malgré le succès qui souvent fait tourner les têtes et oublier l'essentiel, vous n'avez rien oublié. La famille, les amis et cette enfance passée dans la Creuse. La Creuse, ce charmant département de France dans lequel SFR, Free et Bouygues Télécom ont oublié d'étendre leur réseau. Et là-bas, oublié la 4G, oublié la 3G, oublié la 2G. Mais juste la promesse d'une célèbre émission de télévision de permettre aux agriculteurs oubliés de l'amour, certainement trop occupés à cultiver des légumes oubliés, d'enfin découvrir le fameux point G. Les paillettes, le succès et des millions de vues sur YouTube pourtant. Vous n'avez rien oublié. Porte-drapeau d'une France d'en bas, jetée aux oubliettes que les hautes sphères de l'État ont tendance à oublier au profit des grandes villes, bien plus rentables à leurs yeux. Pardon, n'oublie pas d'être drôle, vient de me conseiller par télépathie Anne Roumanoff sur un ton légèrement professoral. Ce ton professoral qu'il manquera de plus en plus dans nos villages oubliés où l'éducation l'est apparemment tout autant. Et ce que d'ailleurs vous n'oubliez pas de souligner dans votre sublime chanson justement intitulée Les Oubliés. Sensible au sort des écoles qui ferment les unes après les autres, faute d'effectifs et de moyens suffisants. Et comme les médecins de villages qui désertent leur cabinet si chaleureux pour des diagnostics citadins bien plus commerciaux à base de « c'est le stress ». Mais Docteur, j'ai perdu un bras, c'est le stress. Prenez un Lofitos. Ce stress, pourtant ressenti par cet instituteur de campagne dont la lettre vous étant adressée, comme on jette une bouteille à la mer, n'est pas tombée dans l'oubli. Et si la puissance de vos textes pouvait faire que les rires des enfants retentissent à nouveau dans ces écoles oublié, alors votre mission d'artiste engagée serait pleinement accomplie. En tout cas, quoi qu'il arrive, cet album et les messages qu'il véhicule vous fera certainement rentrer dans une catégorie très fermée, celle des artistes que l'on n'oublie pas.
Notre invité ce matin qui est un cinéaste à qui on doit Qu'est-ce qui fait courir David, Paroles et musique, Harrison Flowers ou encore Les Menteurs d'André Dussollier et Andy McDowell. La fine fleur du cinéma est passée devant sa caméra, puis il s'est lancé dans la comédie musicale. C'est à lui que l'on doit aujourd'hui, il vient nous présenter son livre, Le Dictionnaire de ma vie, dans lequel il se livre en toute sincérité. L'inclassable Élie Chouraqui est avec nous ce matin sur Europe 1. Ouais, ouais. Bonjour Élie Chouraqui.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Alors, dans le dictionnaire de votre vie, vous nous racontez tout de A à Z. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre maintenant, Élie Chouraqui? Parce que vous allez avoir 70 ans l'année prochaine, ça y est, pour quelque
c'est
chose.
Pas désolé, hein,
c'est pas désolé. En plus, comme l'appui sur le 70 ans. Ouais.
Mais en plus, vous êtes non, bien, franchement, vous faites pas.
Non,
mais
ah, là, moi, se rattrape.
Non, mais je trouve qu'il change pas du tout.
Moi, il avait déjà 70 ans à 22 ans.
Mais non. Vous savez,
ce qui est très curieux, exactement. Ce qui est très curieux, c'est que vous dites ça, j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre.
Mais pourquoi?
C'est parce que j'ai pas le sentiment que je vais
non,
avoir cet âge-là.
Vous faites 60, ah ouais. Vous faites 50.
D'abord, là, je vais avoir 69, ok, année érotique. Ensuite, j'aurai 70 l'année d'après, donc on va se calmer. Ensuite, c'est vrai que c'est. Quand j'étais un jeune homme, il y a maintenant pas mal de temps, quand on parlait d'un homme de 70 ans, c'était un type qui était, voilà, qui avait fini un truc, quoi, qui était passé ailleurs. Mm-mm. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que je suis dans la vie. Je prépare un film que je vais tourner cet été. J'écris ce livre. Je développe deux séries pour les plateformes. Donc j'ai vraiment beaucoup d'activités. J'ai un petit garçon qui a 10 ans. J'en ai quatre autres qui sont plus grands. Mais,
vous avez combien de femmes différentes? 5 enfants et combien de femmes?
J'ai eu 3 femmes pour 5 enfants.
Et
oui,
c'est pas fini.
Il sort tous les soirs en boîte, en plus.
Je vois dans ce sourire que
elle postule.
Qui vient. Oui.
Ça sent la lettre de
donc
postule.
Voilà, donc c'est vrai que c'est très curieux. Je pense que le monde a changé, que pour les femmes comme pour les hommes, on peut maintenant retirer, disons, 20 ans à l'âge qu'on a.
Élie Chouraqui, au sujet de votre histoire, vous dites « Aucune bonne fée ne s'est percée... » On dit, au sujet de votre histoire, c'est l'éditeur, « Aucune bonne fée ne s'est penchée sur le berceau de ce fils d'une modeste famille juive revenue d'Algérie. Votre bonne fée, en fait, c'était vous-même. Et c'est le récit, en fait, d'un homme parti de rien qui s'est fait tout seul, votre livre ?»
Je ne sais pas. C'est le récit de quelqu'un qui, d'abord, a fait rencontres exceptionnelles, des rencontres extraordinaires, qui ont été des rencontres
clés
dans mon existence. Il y a eu Claude, bien sûr.
Vous avez été son assistant pendant très longtemps.
J'ai été surtout son ami, j'ai été son assistant, mais on est devenu amis. Et c'est une amitié qui dure depuis plus de 40 ans maintenant. Et j'ai eu Anouk, Aimé. Et j'ai eu aussi des gens comme Charles Gérard, qui c'est lui, en fait, qui est à la base de tout, c'est l'acteur fétiche de Claude à une époque, qui m'a présenté Claude. Donc voilà, c'est ces portes qui se sont ouvertes, ces trains qui sont passés dans lesquels je me suis engouffré.
En même temps, vous avez assuré, parce que si on vous présente comme assistant et puis que vous ne faites pas le job, vous auriez été viré.
Non, mais j'ai
alors
assuré,
que
puis que pareil comme metteur en scène, et pareil comme scénariste, et pareil comme écrivain, comme romancier. Donc si vous voulez, c'est vrai que j'ai eu une étoile qui s'est allumée comme ça dans mon ciel, et je crois qu'il m'a guidé... jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez vous.
Voilà, il y a des gens qui ont des étoiles, vous voyez.
Voilà. Ouais. Moi, elle est filante depuis longtemps.
Non, mais il faut les rattraper. Même quand elles filent, il faut les bloquer.
Il faut courir après.
Ouais, absolument.
Oh là là.
C'est quoi le secret de la réussite, alors, Élie Chouraqui?
Oh, je crois qu'il y a énormément de travail, un peu de talent et beaucoup de chance.
Mm. Ah, il manque les trois.
Alors, Élie Chouraqui, votre famille est originaire d'Afrique du Nord. Quel rapport vous entretenez avec cette culture? Vous vous sentez proche de ce point de vue?
Oui, très bien. Je me sens judéo-arabe, complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans sous un olivier, voilà, et au bord de la Méditerranée. Même si j'habitais à Paris, dans la porte de Montreuil d'abord et dans le 15e après, c'était un peu ces senteurs-là que j'avais. Avec c'est vraiment ma culture. C'est la façon dont les gens se comportaient autour de moi, la bouffe, la musique, tout ça était vraiment c'était l'Afrique du Nord, c'était mon monde. L'huile d'olive, évidemment. C'était mon monde. Et d'ailleurs, mes parents, qui voulaient absolument qu'on soit des petits Français de la République française, qui, eux, parlaient arabe, parlaient espagnol, ne me l'ont pas appris, malheureusement, pour qu'on soit justement des bons petits soldats de la République française, les enfants de Vercingétorix. Et en fait, il y a eu dans ma vie tout un parcours ensuite pour retrouver ce que j'étais, pour retrouver mes racines, pour retrouver d'où je venais. Et cet olivier à l'ombre duquel je me sens maintenant merveilleusement bien. Donc c'est vrai que c'est très curieux parce que j'ai eu d'abord une sorte de déracinement et je l'ai senti et puis ensuite il a fallu que je retourne et que je reparte.
Alors il y a toute une liste de femmes dans votre livre, les femmes de cinéma d'Eli. Mais alors, Anouk Aimée, Ariane Nouchkine, Nathalie Baye, Catherine Yégel, Nicole Garcia, Nathalie Nel, Katia Tchenko, Magali Noël, Daniel Delorme, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Dominique Lavanant, Nelly Bourgeau, Jade Malle, Brooke Adams, Laura Morante, Hélène Saint-Père, Vindy Visser, Virginie Ledoyen, Christine Boisson, Marie Trintignant, Jacqueline Bisset, Patricia Malvoisin, Anne Roussel, Valéria Bruni, Tedeschi, Lorraine Bracco, Sylvie Hautecoeur, Julie Gaillet, Marie Guillard, Andy McDowell. Bon, je ne vais pas
que
jusqu'au
des
bout.
Belles femmes.
Je connais personne.
Non. Alors tout ça, c'est des femmes que vous avez fait tourner.
Oui,
que...
j'ai fait tourner. Oui.
Toutes ces femmes-là.
Qui ont travaillé avec moi. Et puis, bon, Ariane Mouchkine, j'ai été son assistant quand elle a fait Molière. Et ça a été une femme qui a été.
Vous avez gardé les mêmes cheveux qu'elle, d'ailleurs.
Oui, absolument. Ouais. Ouais. Même si on ne se voit pas, malheureusement, parce que la vie est parfois faite comme ça.
Vous n'avez pas vécu avec Ariane Nouchkine.
Non, c'est
vous
quelqu'un...
Vous n'avez pas vécu avec toutes les filles de la liste.
Non, là, pas toutes, non. Et c'est quelqu'un qui a été aussi très important dans ma vie. Je ne l'ai pas fait tourner, mais les autres sont des actrices avec lesquelles j'ai travaillé. Oui.
Et Lynn Chouraki, il y a une histoire avec Parole et Musique. Vous deviez avoir Adjani dans le film, mais elle vous plante 4 jours avant et
oui,
vous la remplacez par Catherine Deneuve.
Isabelle Adjani, oui.
Avec
Catherine,
en fait.
Alors Catherine, que j'avais rencontrée sur un film qu'elle avait fait avec Claude, si c'était à refaire, a été extraordinaire. Mais elle est toujours extraordinaire, Catherine. C'est une personne absolument exceptionnelle.
Et comment elle le prend d'être plan B, Catherine Deneuve?
Elle le prend très très bien parce qu'elle me dit... Je l'appelle, on est à 3 semaines du tournage, je lui dis, écoute, c'est simple, hein, ou tu acceptes, et on le fait, on continue, ou sinon je le fais pas, et puis je trouverai une autre solution, je prends, bon. Et elle me dit, écoute, je le lis ce soir, elle le lit, elle m'appelle le lendemain, elle me dit, écoute, je le fais.
Elle sauve le film.
Et elle me dit, tu sais, ce qui est formidable, ce que je trouve formidable, c'est, elle sauve le film, bien sûr, et c'est Paroles et Musique, c'est pas n'importe quel film, c'est un film qui est quand même, un film qui a marqué, en tout cas une génération, je crois. Et elle me dit, moi j'adore qu'on propose des rôles en fait qui étaient destinés à d'autres actrices parce que ça me permet d'explorer d'autres choses que peut-être quand on écrit pour moi je n'explore pas. Et je trouve que c'est très intelligent. Je trouve qu'il ne faut pas avoir d'a priori, mais dans la vie pour une actrice, mais dans nos métiers aussi, si on vous propose demain d'être explorateur ou ébéniste, il faut essayer et voir si on est un bon ébéniste et pas se dire non. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas pour moi.
De toute façon, moi, je prends tout, je n'ai pas le choix. Donc.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir les yeux ouverts. Les garder ouverts. Oui.
Les yeux et le cœur ouvert.
Et le cœur ouvert, oui, absolument.
Et bien, on va garder les yeux et le cœur ouvert dans quelques instants pour la suite de cette émission. Alors, il y a eu les films, Elie Chouraki, le volleyball, mais il y a aussi la comédie musicale. Alors, vous, votre première comédie musicale, hop, les 10 commandements, quoi.
Gros carton.
Oui, les 10 commandements. Oui. Quand je me suis dit, peut-être, j'aimerais bien faire un film sur les 10 commandements, et je me suis dit, ah mince, il y a Cécile Benmil qui l'a fait pas si mal que ça avec Charlton Heston, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis dit, je vais faire une comédie musicale, et puis voilà, et puis après, tout le monde m'a dit,
incroyable.
Mais t'es complètement fou, mais c'est quoi cette histoire? En plus, il y avait même du mépris parfois de la part des gens de cinéma qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que un cinéaste? C'est très curieux d'ailleurs, parce que. Quand j'étais aux États-Unis, quand je travaillais sur mes films aux États-Unis et que je disais, vous savez, j'ai fait aussi des comédies musicales, tout le monde me disait, waouh, c'est extraordinaire.
Ouais.
Et en France, c'est le. Vous savez, en France, on met les gens dans des petites cases comme ça. Ils peuvent faire ça et pas ça. Et on me disait, oh, bah oui, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Et en fait, je l'ai fait et je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et ça a été un énorme succès, d'abord parce que j'ai su m'entourer. Il y avait Pascal Obispo, il y avait Sonia Haeckel qui a fait les costumes, il y avait Gian Tito qui était le décorateur. Il n'y avait que des gens de talent. Kamel Wally, que j'ai découvert un peu et que j'ai pris pour faire ce spectacle. Ce rassemblement-là n'était pas tout à fait un hasard. C'est parce que justement, il partait. On parlait tout à l'heure de mon histoire, de mon olivier, du lieu où je venais, d'où je venais. Les 10 commandements, c'est un peu le lieu d'où je viens. C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de ce peuple-là que j'avais envie de raconter quelque part dans mon imaginaire.
Vous dites aussi que toutes les planètes étaient alignées. Et
les planètes étaient alignées.
Et c'est vous dites que des fois sur un projet, les planètes sont alignées et des fois
absolument.
Non.
Je sentais parce que, en fait, ça c'est... Il y a eu beaucoup de cynisme un peu autour du projet au début.
On s'est beaucoup moqué de vous.
Voilà. Et puis soudain, c'est parti. Et je sentais qu'il y avait quelque chose d'irréversible. Et vous savez, moi j'ai pris beaucoup de risques parce que personne ne voulait financer ce projet.
Vous avez hypothéqué votre maison sans dire à votre femme.
Oui, absolument. Oh, oui. Oh là là. Je lui dis maintenant. Et bon, on n'est plus mariés, donc ça va. Et c'est vrai que c'était un risque énorme. D'ailleurs, j'ai quelques cheveux blancs qui me restent de ça. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être, c'est de prendre des risques et d'aller au bout des rêves que j'ai, quoi, d'aller au bout de mes rêves.
3 millions de spectateurs, quand même, les 10 commandements, c'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup.
Ça a joué dans le monde entier.
Ouais, et ça continue.
Et vous, alors, vous avez écrit le livret?
J'ai écrit le livret, j'ai fait la mise en scène, j'ai créé le spectacle, j'ai dirigé.
Vous pourriez arrêter de travailler, là.
Quelle horreur!
Non mais...
Ah, mais quelle tristesse! Si j'avais arrêté de travailler, je vous en supplie, non, vous faites que je continue à faire des films.
Non,
elle
veut juste
spectacles.
Savoir si vous êtes riche là maintenant. C'est ça qu'elle veut savoir. C'est tout, bien sûr.
Je suis pas riche, non, parce que moi je partage beaucoup avec les autres et que.
Ah, bah ça tombe bien, genre. Oh, curieusement, j'ai un rythme sur moi.
Non,
alors.
Mais vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites parce que
vous
curieusement,
ce que vous voulez, hein.
Les gens pensent. C'est vrai que j'ai eu ce privilège de faire beaucoup de choses qui ont marché. Et les gens pensent que que j'ai beaucoup d'argent, que je peux faire. Je dis pas que je vais mal, hein, au contraire, ça va plutôt bien. Mais c'est vrai
parce que moi ça va mal par contre.
C'est vrai que, et je le dis vraiment, sincèrement, c'est vrai que le gain n'a jamais été ma préoccupation essentielle et mon moteur.
Et après, vous avez fait le spectacle Spartacus,
qui a moins bien marché, mais qui est un très beau spectacle que je ne regrette absolument pas. Maxime Le Forestier avait fait une musique magnifique. C'était beaucoup moins populaire. C'est un spectacle trop dur, je pense. Puis bon, on est passé un peu à côté, mais c'était bien
après,
de faire.
Et après, alors, il y a eu d'autres envies de faire des comédies musicales?
Là, j'ai oui, une ou deux idées qui sont un peu sur le feu, oui, qui sur lesquelles on travaille.
Religieux toujours ou...
Non, pas du tout. Mais vous savez, je veux pas trop en parler parce que c'est des projets qui sont difficiles à monter parce qu'il y a pas la structure de financement comme au cinéma.
Bien sûr.
Il n'y a pas les télévisions, Canal+, les autres chaînes, le CNC, etc. Les spectacles, c'est vraiment du financement.
Et vous êtes superstitieux ou pas, Élie Chouraqui?
Je suis un peu superstitieux. Ouais. Mais c'est pas grave.
Je vous présente quelqu'un
qui n'est pas superstitieux.
Qui est pas vraiment superstitieux, mais qui est très content
bien,
de vous voir.
Et qui aime bien partager.
Ouais. Oui, voilà, Élie Chouraqui. Donc je suis ravi de vous rencontrer. Je crois qu'on peut même parler de véritable fantasme pour moi. En effet, Élie Chouraqui, depuis toujours, je rêve secrètement d'avoir vos cheveux. Cette légendaire farandole de bouclettes argentées, ce doux mélange de poivre et de sel pour un rendu juste à la frontière entre Georges Clooney et Nelson Montfort. Oui, j'en ai rêvé et j'en rêve encore. Cependant, outre cette entrée en matière placée sous le signe de Franck Provost, je dois vous dire qu'au-delà de cette affection capillaire, vous recevoir ce midi n'a pas été pour moi une chose aisée. Je m'explique. En tant que préposé à votre portrait dans l'émission, je dois bien reconnaître que faire entrer toute votre biographie et vos 3000 vies dans une chronique de 3 minutes, c'est un peu comme faire entrer une baleine dans une boîte de thon. Il n'y a pas la place. J'avais la même métaphore avec Teddy Riner et Mimi Mati, mais je trouvais ça un peu violent. Entre votre carrière de cinéaste, votre rapport à Dieu, la création de comédie musicale, votre émission politique, les règles du volleyball, pour tout caler, c'est plus un portrait, c'est une partie de Tetris. J'ai beau avoir l'esprit de synthèse, j'ai pas réussi à trouver un fil rouge entre Anouk Aimée, Moïse, le gouvernement et le sport de ballon le moins bien rémunéré du pays. Du coup, j'ai essayé des trucs, hein, pas forcément concluants. J'ai bien essayé de me renseigner sur les goûts d'Anouk Aimée, votre première muse de cinéaste en matière de volley. Résultat, pas dingue. J'ai aussi essayé un parallèle entre la politique et les 10 commandements. Et là encore, ça ne marchait pas non plus. Moïse a écarté les eaux. Hein. Le gouvernement, ça fait 6 mois qu'ils sont en dessous des eaux. Ils ont pas Moïse, ils sont dans la Moïse. Et puis, au milieu de tout ça, Élie Chouraqui délivre. Et ce dernier, vos mémoires, un autoportrait en 26 lettres de l'alphabet qui en dira de toute façon beaucoup plus que mon portrait, à moi. Votre abécédaire hein, qui me fait dire que si je me prêtais moi-même à l'exercice, ma vie se limiterait tristement à la lettre Q. Bref, vous êtes partout, Élie Chouraqui, et j'ai peut-être trouvé un élément de réponse au pourquoi de cette soif dans un grand texte. Un grand texte de votre propre comédie musicale, je cite « C'est tellement court, une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. »
C'est joli.
Ouais,
très joli.
Très joli.
Dites bravo Ben H.
Bravo Ben H.
Merci, c'est très joli. Monsieur Chouraqui.
Léa Landau a des questions à vous poser.
Oui, Élie Chouraqui. Bah, vous avez écrit donc le dictionnaire de ma vie, enfin de la vôtre, hein, parce que la mienne tiendrait sur un post-it avec juste la lettre C et
je
D.
Je ne vous crois pas.
Si, comme célibat et dépression. J'ai donc décidé de vous faire le dico Landau. Je vous donne les définitions et vous me donnez le mot qui correspond à la lettre que je vous propose. Exemple, si je vous dis humoriste sur le retour avec un R, bah, vous pourriez me dire Roumanoff.
Quoi Elle est chippie, hein. Et vous voyez, j'entretiens dans mon équipe.
Moi, je ne sais pas comment vous acceptez ça.
Mais oui, vous êtes d'accord.
C'est une chippie.
C'est une chippie.
Et pour nos auditeurs, vous avez balancé un bouchon de stylo qui a atterri sur quelqu'un du public.
Voilà.
J'ai blessé. J'ai fait un procès.
J'ai visé Léa.
Bon, après, Élie Chouraqui, en réalité, le dico Landau, c'est pour connaître mieux qui. Donc, Chouraqui. C'est bien, tu suis, Christine. Allez, avec un A. Endroit idéal où vous aimez fermer les yeux, rêver seul ou à deux.
Sur la plage.
Avec un A.
Bah, la plage.
Lui non plus, il suit pas.
Avec un A.
Bah, oui. À la plage.
Ah, bien joué.
À la plage, voilà.
Bien joué, d'accord. Avec un B. Ce qui éveille vos papilles et stimule vos émotions, Élie Chouraqui.
Le bonheur.
Ouais, moi, j'avais mis baiser, mais bon, ouais, chacun son truc. Le baiser, évidemment. Avec un C. Le genre d'individu malotru à l'aura malaisante.
Le genre d'individu malotru, un connard.
Par exemple, voilà, très bien. Avec un D, ce qui vous procure du plaisir, quelle que soit l'heure et le lieu.
Un doigt.
Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? On va être obligé de la censurer.
C'est fou.
Elle l'a fait toute seule.
C'est pas Élie Chouraqui qui a répondu, je précise. Non,
ouais, s'il vous plaît. Précisons.
Le désir.
Ouais, c'est un peu plus élégant.
Ouais, quand même, plus chic. Avec un E, l'autre métier que vous aimeriez pratiquer. Ou que vous auriez aimé.
Emmaüs.
Ah, très bien.
Pourquoi Emmaüs?
Parce que j'aime donner, donc j'aime rassembler tout ce que les gens perdent et puis leur donner à ceux qui en ont besoin. Ce serait pas mal comme métier.
Avec un F, Élie Chouraqui, sans la comédie musicale Les Dix Commandements, vous en auriez moins.
De femmes.
Ouais. Moi, j'avais mis de flouzes, mais c'est vrai, c'est pas mal. Avec un G, c'est ce qui vous a séduit en premier chez votre femme, la dernière.
Je vais aller dire un truc, mais c'est vrai.
Il va encore dire un truc.
Dites-le, on dirait que c'est Benache qui vous a soufflé.
Sa petite gueule.
Ah, ma petite gueule, ça va, c'est
ça
mignon.
Vous aviez dit, on vous a dit autre chose.
J'avais dit autre chose.
Il y avait aussi le point G.
Voilà, c'est ça.
Le point G, bien vu. Avec un L, le plus beau cadeau que vous aimeriez recevoir.
Léa Landau.
Ouais, la 2 L.
Avec un L, le plus beau cadeau. L'amour, si ça commençait par elle.
Ouais, ok. Avec un N, elle est belle et dans une autre vie, peut-être, elle vous aurait fait chavirer.
Waouh, elle est belle, N.
Elle est belle et dans une autre vie, peut-être, elle vous aurait fait chavirer. Avec un N.
La nana de Zola.
La nana de Zola, pas mal.
La nana Mouskouri.
Ouais, non. Avec un P, la question que vous vous posez le plus souvent.
Partir.
Point d'interrogation.
Ouais.
Où?
Quelque part, ailleurs,
ah ouais,
me faire disparaître. Oui, c'est une question que je me pose parfois. Oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire dans le, quand on est comme ça un peu suractif, quand on peut se dire, mais si je le veux, demain, je peux partir et changer totalement d'existence et puis me faire oublier et vivre une autre vie.
Non, mais attendez, vous avez des enfants, vous n'allez pas les planter quand même, c'est
non,
quoi,
ils sauront où je suis, mais bon, c'est des grands maintenant.
Ben oui, il y a Skype maintenant.
Ils veulent célébrer. Mais c'est vrai que, mais même partir, c'est pas seulement voyager, c'est partir dans sa tête, partir ailleurs, faire autre chose. Quoi.
Et ça va vous sinon?
Oui, je consulte.
Avec un R, l'activité principale d'Élie Chouraqui lorsqu'il est chez lui.
Rêver.
Avec un S, l'activité principale d'Élie Chouraqui lorsqu'il n'est pas chez lui.
Avec un S.
Ouais. Ben H, tu te tais.
Oui, oui. Pas de truc bucco machin dégueulasse. Hein.
C'est difficile à dire sourire. Le sourire. C'est difficile. J'ai pas de réponse.
Séduire.
Là. Séduire, non. Je suis pas. Non, le sourire, c'est-à-dire le plaisir intérieur, oui, de découvrir la découverte, le sourire de la découverte. C'est un peu alambiqué comme réponse, je suis d'accord.
Avec un T, la chanson que vous fredonnez parfois.
Tiens, voilà du boudin.
Attends, l'intellectuel non, de la bande.
Ouais, c'est ça. Là, il relève le niveau toujours, Jean-Philippe.
Avec un T, avec un T. Retiens la nuit. Je suis tout mieux, mais bon. Ouais, vous aviez pensé à quoi, vous?
Tout doucement.
Tout doucement.
Il y a toi, plus moi, plus tout ce qui
c'est joli aussi.
Ouais. Enfin, la mienne était bien
aussi. Ou toi, toi, mon toi, vu qu'on
toi,
a
toi,
reçu...
Mon toi, voilà. Toi, la toi, son, mon toi. La chanson préférée de ma fille aînée, oui.
Ah ouais.
Quand elle était petite, elle le chantait, elle se mettait à tourner, elle tombait, elle s'étourdissait.
C'est vrai.
Oui, oui, j'étais obligé de l'arrêter.
Et le mot de la fin avec un R comme Roumanoff, on dirait quoi, Eli Chouraki?
Je reviens.
C'est une habituée des premières. Elle était la première artiste femme à remplir Bercy, la première à être sacrée meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique. Et c'est la toute première fois que nous l'accueillons dans cette émission. Applaudissements pour Jeanne Masse.
Oui. Tu peux nous refaire le toute première fois, s'il te plaît.
Toute première fois.
Toute première fois.
Vous avez fait combien d'années de solfège?
Alors, Jeanne Masse, vous avez une vie incroyable, vous déménagez tout le temps. Vous êtes très instable.
Totalement, totalement instable.
Mais non, parce que vous avez tenu une crêperie en Italie.
Ah ouais?
Après, vous êtes revenue en France, vous avez été à Ruelle Malmaison, à Garches, dans 4-5 endroits. Ouais. Et un matin, vous prenez votre visa pour les États-Unis.
Tout à fait.
Et vous, sans billet de retour.
Sans billet de retour. Et là aussi, j'ai déménagé, j'ai fait Los Angeles, trois quartiers de Los Angeles. On est parti dans l'Arizona, on est parti à New York, on est revenu dans l'Arizona. Ah
oui. Mais qu'est-ce qui vous pousse à partir à un moment donné?
Acheter un camping-car, il faut le rentabiliser.
Non mais sans deck, c'est ce que je vais faire là.
Bah oui,
bah oui, ah parce ouais. que là, je revends ma maison, je me suis dit c'est bon.
Acheter
là, je
un camping-car.
Un grand, beau, ouais. Sûrement, certainement, je vais finir comme ça.
Et, mais avec les mecs, vous êtes instable aussi pareil, Jeanne Masse?
En ce moment, c'est assez creux, donc l'instabilité, oui, non, j'ai beaucoup de mal, en fait, parce que je suis trop curieuse et trop... j'ai trop envie de découvrir de nouvelles
de
passions.
Hommes. De
c'est ce, ouais. Mais c'est ce que disent tous les mecs qui trompent.
Je vais la noter, cette excuse, parce qu'elle est pas mal. Quand je vais me faire gauler, moi, je vais dire, c'est
la curiosité,
il y a
des choses plus importantes que les hommes dans la vie, quand même.
Bien sûr.
Donc, moi, non, j'aime beaucoup déménager, parce que j'aime recommencer, j'aime découvrir, voilà.
Enfin, à chaque fois, moi, j'aime pas déménager. Faut connaître ses voisins, faut changer l'adresse,
oui,
le
c'est
DF,
vrai. Ça, c'est vrai, changer ses meubles, faut tout changer parce que moi je vends tout, j'emmène rien avec moi.
Et en plus, vous êtes végétarienne et végane maintenant.
Je suis végane, je ne suis pas végétarienne.
Vous avez été végétarienne 23 ans, maintenant vous êtes végane.
Oui, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'être végétarien, c'est quand même être hypocrite.
Vous ne pouvez pas être avec un homme qui n'est pas végane.
Non, c'est dégoûtant, il a plein de toxines dans la bouche.
Ah déjà.
Moi, je sors chez Hippopotamus, donc c'est
non, mais déjà qu'on en a naturellement, ok, mais certaines sont bonnes. Mais alors, quand t'as mangé de la viande, c'est horrible. Et puis en plus, je parle même pas de la laine. Mmh. Ben oui, parce qu'il a quand même... Et puis, moi, ce qui me fait peur, c'est les fibres qui restent entre les dents et tout.
Les hommes qui vous aiment, ils sont obligés d'arrêter la viande.
Exact.
Il paraît qu'il y en avait un moment, vous le soupçonniez de manger de la viande en cachette.
Oui, parce qu'il avait dit, mais je me sens un peu faible et tout ça. Mais non, je pense qu'à la fin, il... Mais moi, je le sens, hein, je le sens. Donc, s'il a fait ça, c'est fini.
C'est comme quelqu'un qui fume, en fait. Vous le sentez, la viande, il a une odeur.
Non, mais ça se voit dans la peau, ça se voit dans tout.
Il fait un homme qui mange de la viande. Un peu coloré, il y a de belles couleurs.
Non, non, c'est pas du tout belle couleur. Au contraire, ta peau est grasse, elle est pas. Elle
à
est
votre
pas...
avis, Ben H, il est végane ou pas? À votre avis, quand vous entendez.
Bah là, j'ai pas mes lunettes, donc j'ai du mal à voir. Merci, et puis en plus, il se cache bien, la petite barbichette.
Mais il sent
cheveux,
la côte de bœuf d'ici. Là.
Ah, lui, il en mange de la viande fraîche.
Là, il sent la sauce bernaise.
Il paraît que vos enfants en avaient assez que vous déménagiez. Votre fille, là, au troisième déménagement aux États-Unis, elle a dit j'en ai marre, elle retourne à Paris.
Non, elle est partie au premier déménagement.
Elle a dit, maman, t'es folle, qu'est-ce qu'elle a dit?
Non, elle a besoin de ses racines, elle a besoin d'être comme un arbre, elle se déplace plus, elle est là, et mon fils, pareil, au bout d'un moment, il a dit, maman, ça m'a énormément aidée, c'était super, j'ai rencontré plein de gens, mais là, maintenant, il faut que je me case et il faut que j'arrête.
Bah
et
ouais.
Donc, lui, c'est normal.
Et vous dites que votre maison était pleine d'animaux, d'artistes.
Oui, quand on habitait dans le sud de
vous
la France.
Vous avez plusieurs artistes chez vous?
Non, mais les artistes venaient me voir pour faire une semaine de cure de désintox parce qu'ils savaient que chez moi, ils allaient bien manger, que c'était sain, qu'ils allaient nager et tout ça, quand j'avais la maison dans le sud de la France. Donc, j'avais plein de gens qui venaient puis après, ils repartaient à Paris, évidemment.
Se décrasser.
Voilà,
après...
se décrasser. Ils disaient, ah, je me sens tellement bien chez toi. Et puis après, ils repartaient.
Vous faites toujours des stages comme ça?
On peut venir aussi.
Vous voyez un homme, vous lui dites j'ai envie de te découvrir, comment ça se passe?
J'ai envie de découvrir un homme, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose de différent. D'abord, je regarde les mains. S'il a des mains un peu courtes et rondes, c'est fini.
Ah bon?
Ah, ouais,
ah mais
tout le monde regarde
que...
ses mains dans le public.
Moi, j'aime bien, elles sont...
C'est quoi, un peu courte et ronde? Ça va.
Moi, elles sont longues et fines.
Pourquoi? T'as envie que je te découvre?
Non, mais c'était pour savoir quel est votre style de main, juste par curiosité.
Mais lui, son passe-temps, c'est le barbecue. Ça vous correspond pas du tout.
Le problème aux États-Unis, c'est que les hommes sont très bricoleurs. Donc, en général, ils ont des mains un peu potelées comme ça. C'est un peu difficile.
Vous regardez les mains.
Je regarde les mains. Après, je regarde le physique aussi. J'aime pas les mecs qui ont du ventre. Donc, je suis pas gâtée aux États-Unis.
Jusque-là, je fais un sans faute. On continue. Pour l'instant, je suis en tête.
Elle est en train. Jamais est en train d'inspecter la marchandise.
Elle
a mais elle a
visage,
pas l'air convaincue.
Je suis pas loin d'être en camping-car ce week-end.
Attends, j'ai pas encore acheté. Un peu de patience.
Les mains, c'est bon. Le ventre, c'est pas mal.
Alors, pas de ventre. Ensuite, quoi d'autre, Jeanne Dasse?
Vegan?
Non, il est pas du tout vegan.
Je peux le devenir.
Qu'est-ce qui se passe?
Suffit que j'arrête de manger de la viande. Voilà.
On échange nos numéros tout à l'heure.
Alors,
il faut qu'il soit donc les mains, pas de ventre.
Première fois.
Ça me casse. Hein, si tu chantes les chansons, l'homme qui chante les chansons, c'est fini. Jeanne Mas, vous aimez pas?
Ah oui, non, faut pas. Faut
ah,
ben
pas. Ah ouais.
Ah ben non, parce que dans ces cas-là, il est amoureux de l'artiste, c'est pas de la femme,
ah,
bien sûr.
Bah oui.
Ah bah oui, là, vous avez exagéré. Le mec qui me fait ça, c'est fini. Il rentre chez lui.
Ah ouais.
Bredouille, hein, en plus.
Ah ouais, bredouille.
Ah oui.
Ah ouais. J'étais pas
loin. Et après, ça dure combien de temps? Alors, quand vous en avez assez, vous arrêtez de découvrir, vous lui dites au revoir. C'est vous qui larguez les hommes, alors, en fait?
En général, oui.
Ah oui.
Ou en général, oui, parce que je suis, c'est moi l'instable.
Ouais.
C'est moi l'instable et imprévisible aussi.
Mais si ça t'attache, et vous lui dites quoi alors en américain? Vous dites it is over.
Non, mais en général, les Américains sont pas sexe, donc ça c'est déjà un gros problème. Donc à la fin ils me disent you're too sex et je leur fais ok, ok. Ok, goodbye.
Ah bah
mais je ne reviendrai pas.
Alors, tout sexe, ça veut dire ils vous trouvent trop...
Trop sexuelle.
Trop française. Alors, au début, ils se disent...
On a encore un point commun, disons.
Ouais, non. Et vous avez des propos assez durs sur la vieillesse des femmes. Vous dites des choses absolument... L'âge est un poison pour les artistes féminines. Lutter pour paraître encore agréable à regarder quand ton corps entier t'a déclaré la guerre est un vrai supplice.
Ben c'est vrai.
Ben vous êtes bien quand même, Jeanne Mas.
Oh, vous êtes gentille, merci beaucoup. Mais je dis que quand même, vieillir, on regarde plus les femmes qui vieillissent que les hommes. Puis les hommes, ils ont de la chance, ils font pousser la barbe, ça va très bien. Une femme qui fait pousser la barbe, ça va plus du tout.
Ça, non, mais ça gâche
ça.
Un peu.
Voilà, donc toi, si tu as le relâchement cutané...
Oui, moi,
on
camoufle, nous.
Ouais,
ah oui,
bah oui.
Camoufles. Moi, j'ai beau essayer de faire je vais camoufler, il y a un moment, ça va se voir.
Au bout d'un moment, ça fait Conchita Verse.
Je présente quelqu'un qui n'a pas besoin de se camoufler, c'est
tout à fait.
Christine Béroux qui a des choses à vous dire.
Oui, j'ai lu votre livre. Alors, bon, déjà, vous écrivez il y a eu ces émissions bercées de poésie, d'élégance, et puis il y a les autres. Eh bien, j'ai envie de vous dire bienvenue dans ma chronique. mais avant, permettez-moi de vous remercier pour votre engagement pour la cause animale, parce que moi aussi, je suis très engagée. On était dans la même manif il y a 2 ans aux arènes de Lutèce. Vous êtes engagé contre la chasse aux loups parce que les loups sont chassés en France.
Bon, ça va, les véganes, là.
Même plus être végane hein, que de défendre la cause des loups.
Vous
c'est juste.
Vous énervez pas.
Parce que c'est vrai que des loups, il y en a de moins en moins en France. D'ailleurs,
mais ça Anne, manque de loups. Anne, dans, ça fait longtemps dans Paris, moins de loups.
Anne, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le loup. Un loup.
Non, mais il ne va plus y en avoir en France, c'est sûr.
Et bravo pour ce livre. J'ai beaucoup appris sur vous. Par exemple, votre affection pour l'Italie, vous avez raison. Un pays d'où viennent beaucoup de grosses voix. C'est vrai, Caruso, Pavarotti, Bocelli, Carla Bruni. Bref, moi aussi, je connais bien l'Italie. Enfin, la porte d'Italie, je ne sais pas si ça compte. Vous assumez d'avoir eu 25 ans au début des années 80. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. À l'époque où vous êtes devenue une grande star, moi, j'étais à l'école et toutes les mamans, celles de mes copines et la mienne, passaient par leur période Jeanne Mas. Des pulls déchirés, des traits d'eyeliner. J'y pense que je suis pareil. Ma fille avec mon jogging et mes cheveux tout emmêlés. Moi, je suis dans ma période zaz. Alors, vous parlez de vos grossesses, que ça change d'être une artiste et de devenir mère. Je me suis beaucoup reconnue parce que c'est vrai que quand j'avais pas d'enfant et que je venais faire une chronique, j'avais le trac, j'étais pas bien. Et depuis que j'ai un enfant, je viens faire une chronique. Et ben, ça veut dire que je suis pas avec ma fille. Et c'est le bonheur. Voilà, c'est de toute façon un bon moment. Il y a plein de pépites dans ce livre. Vous racontez comment Jamel Debbouze a marché sur votre robe à Cannes, la dépression de votre chienne Daphné.
Ça, c'était dingue.
Bah oui, c'est
à
triste.
À Los Angeles, il faut
bah
le dire.
Bah ouais, non, mais vraiment, vos passages au Club Dorothée, je vous ai vu au Club Dorothée, mais je voulais pas trop vous le dire parce que ça vous
est. Non, mais moi, j'adore Dorothée.
Et vous parlez de votre véganisme, ça, c'est un point commun qu'on a. Et vous avez vu, ils sont pas faciles avec le véganisme. voilà, c'est la toute première fois que
non,
nous
voyons...
Non,
mais Sandek, vous êtes végane.
Oui.
Oh là là.
Oh, c'est cool.
Ah,
ben...
oui. Ah, mais je vous adore. Mais je dis pas depuis le début parce que c'est dur avec eux.
Mais oui, mais on s'en fout d'eux.
Mais oui.
L'important, c'est nous.
Ah, ça, c'est fini entre nous. Ça va durer longtemps. C'est l'histoire la plus courte que j'ai vécue.
Et bon voilà, c'est la toute première fois que nous nous voyons, mais j'espère que c'est pas la dernière, Jeanne Masse.
Merci
pour votre attention.
Merci.
Bravo.